En fouillant un peu dans l'histoire des sciences, on trouve une catégorie d'individus qui se distingue par sa capacité à s'arranger quelque peu avec la vérité scientifique. Ces hommes et ces femmes en quête de reconnaissance sont même devenus de véritables génies de l'imposture, au point de donner naissance à une véritable science de la manipulation. Le journaliste Gilles Arpoutian publie aux éditions du Chêne la petite histoire des grandes impostures scientifiques. Il est mon invité cet après-midi avec le mathématicien Jean-Gabriel Ganassia, qui est membre du comité d'éthique au CNRS. Ils répondront à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Les sportifs olympiques gagneraient en moyenne 7 ans d'espérance de vie en plus. Incroyable, une étude qui nous intrigue et qui est à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, on entend un peu tout et son contraire sur les effets de la pratique sportive sur la santé. Cette étude sur les athlètes devrait nous permettre d'y voir un peu plus clair dans un instant à la une.
Et on compte sur vous. Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy avec le cahier Science et médecine du monde. C'est Céline Hila qui est aux commandes de cette tête au carré, dossier préparé par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dossier consacré donc dans quelques minutes aux impostures scientifiques avec Gilles Arpoutian et Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Gilles Arpoutian. Au cœur de ces histoires d'impostures scientifiques, on croise la figure d'Albert Einstein. Le génie de la physique himself aurait été un plagieur.
Eh oui. Et oui, en 1905, il débute sa carrière par du plagiat. Et voilà, ça va le lancer sur une trajectoire merveilleuse. Et ça n'en fait pas moins un grand génie, mais il a été plagieur, oui.
Même la fameuse équation E égale MC2 aurait été quelque peu inspirée par d'autres.
Absolument. En fait, les grands génies s'insèrent dans l'histoire des sciences. De grandes découvertes les précèdent, vont les suivre. Et Einstein a ce génie de reprendre, à un moment donné, les travaux les plus en pointe dans son domaine et de pouvoir en faire de nouvelles fondations pour la physique moderne.
Vous allez nous raconter toute cette histoire, entre autres, mais pas seulement celle d'Einstein. Il y a beaucoup d'autres protagonistes dans cette affaire. Jean-Gabriel Ganassia, est-ce qu'il est possible d'évaluer le nombre d'auteurs d'imposture aujourd'hui en science? C'est compliqué.
C'est très compliqué, d'autant plus qu'il n'y a pas qu'une seule catégorie d'imposture. Il y a des gens qui sont des scientifiques qui trichent vraiment, c'est-à-dire qui fabriquent des données ou qui falsifient des données. En ce sens-là, ils sont vraiment nocifs parce que ce qu'ils disent est faux. Et on en a un certain nombre d'exemples, par exemple des gens comme Sean, etc. Il y en a dans toute l'histoire. Et puis il y a des gens qui s'arrangent un tout petit peu. Alors ce qu'ils disent n'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils veulent aller un peu plus vite, ils veulent publier avant les autres. Et puis il y a ceux qui sont un peu des escrocs, mais qui font du bon travail de scientifiques, simplement qui volent un peu ce que font les autres.
Et il y en a qui ont de l'humour aussi, on le dira avec vous. Il y a quelques exemples dans ce domaine. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. Et à la une de la science aujourd'hui, 7 ans d'espérance de vie en plus pour les athlètes olympiques. Voilà un petit coup d'hymne officiel des Jeux Olympiques pour parler des effets sur la santé de la pratique du sport avec cette étude française au sujet donc des athlètes olympiques depuis 1948. Et ce résultat est impressionnant puisque leur espérance de vie serait de 7 ans supérieure au reste de la population. Bonjour Jean-François Toussaint.
Bonjour.
Vous êtes médecin et professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes. Et puis avec nous dans ce studio, Dominique Dupaille, notre médecin généraliste. Bonjour Dominique. Jean-François Toussaint, comment est-ce que vous avez procédé d'abord pour arriver à ces résultats étonnants?
Alors on a souhaité s'intéresser à l'exhaustivité de la cohorte. Donc finalement, tous ceux qui en France ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1896. Et puis à partir de là, il fallait prendre ceux dont on était certain de pouvoir obtenir toutes les conditions de morbidité et puis les causes de mortalité, et donc réinterroger cette fois-ci les registres français, et notamment le CPDC, une unité dédiée de l'INSERM pour ce suivi, et à partir de là, comprendre ce que sont les différentes causes associées à toutes les raisons qui ont vu la fin de ces hommes et ces femmes exceptionnels qui ont participé aux Jeux Olympiques et qui ont donc également eu une vie très particulière.
Dominique Dupaigne, une cohorte de sportifs seulement olympiques, est-ce que c'est une particularité qui a son importance pour analyser ces résultats ?
sont des sportifs de haut niveau, mais ce sont des sportifs qui sont censés ne pas être des professionnels, donc pratiquer de façon amateur.
Et en ça, ces 7 ans ont un sens par rapport à l'amateurisme ?
On n'est pas dans une corde de sportif. On avait des données qui montraient que dans certains sports, on avait au contraire une baisse de l'espérance de vie ou des complications qui n'ont pas été montrées justement dans cette étude. Et ce sont des sportifs professionnels essentiellement. Et donc, quand on est sportif olympique, on est censé être un sportif amateur.
Jean-François Toussaint, une différence importante alors ?
Alors, il y a une grande différence par rapport à ce que certaines études ont montré, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'effets de sur-risque, je pense aux spécificités du football américain par exemple, avec toutes les commotions cérébrales et le risque de long terme qu'on peut avoir. Mais ce que l'on constate, y compris dans cette population-là, puisque c'est un autre article qui est sorti il y a 3 ans, et qui montre que si on a une petite augmentation des complications neurodégénératives globalement, le risque cérébral peut être augmenté. Dans le même temps qu'on a une augmentation de 3 à 10 décès sur la cohorte de 5000 footballeurs, on a une réduction de 300 décès à seulement 150 décès pour une diminution des causes par cancer et par maladie cardiovasculaire. Et donc là, on voit tout de suite qu'il y a un effet majeur lié à l'état de santé ou aux prédispositions qui sont associées entre performance et survie, au détriment parfois d'une spécificité qui peut être, par exemple, dans le cyclisme, les accidents traumatiques lors de descentes d'école ou des accidents avec les véhicules sur la route. Et donc, sur ces éléments-là, on a bien la confirmation, y compris pour des sports à risque comme le football américain, de cette association d'une prolongation qui est dans cette cohorte-là de 5 ans pour des sportifs professionnels.
Est-ce que parmi les sports olympiques, on peut pointer du doigt des sports plus bénéfiques que les autres ?
Alors, c'est toute la question qu'on se pose actuellement. Nous sommes en train de réaliser cette étude. Le premier constat que l'on peut avoir, c'est que ceux qui combinent des qualités différentes et donc des durées d'efforts différentes, à la fois des efforts de puissance, de force, et des efforts d'endurance, et vont avoir une augmentation du bénéfice cardiovasculaire. Et c'est typiquement le cas, par exemple, des athlètes décathloniens ou heptathloniennes pour les femmes, qui vont combiner des épreuves de vitesse, donc de sprint pur, et des épreuves d'endurance.
Dominique Dupagne, quand vous avez un patient qui vous demande quel sport je dois pratiquer justement pour être en meilleure santé, comment vous lui répondez ?
Je lui explique que sport n'est pas forcément synonyme de bonne santé, comme vient de le dire mon confrère. Vous avez des sports qui correspondent à des efforts explosifs, brutaux. Et s'il n'y a pas un travail d'endurance qui est fait à côté pour obtenir la condition physique, ce sont des sports qui certes sont ludiques, qui sont amusants, mais qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Les sports qui sont bons pour la santé, qui améliorent la condition physique, sont des sports qui font travailler le corps un peu comme un diesel, avec un mouvement régulier, avec de l'oxygène qui est assimilé par les muscles, et non pas un effort extrêmement brutal, peut-être plus amusant pour certains sports, mais qui peuvent être mauvais carrément pour la santé.
Donc il y a des contre-indications aussi.
J'irai quand même un peu à l'encontre de cette idée qui était bien la nôtre au départ en se disant il devrait y avoir des risques potentiels. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'augmentation des capacités physiques de puissance est aussi associée avec une augmentation de la durée de vie sur cette cohorte. Et donc, on n'a pas tout à fait les arguments que l'on pensait être associés à des destructions et avec certes seulement des anomalies telles que l'arthrose, mais en plus une réduction de l'espérance de vie, on n'a pas du tout confirmé cette inquiétude qui était la nôtre au départ.
Oui, mais comme vous le signalez vous-même, il y a une prédisposition personnelle à la performance physique, au fait d'être un athlète olympique. Il y a un mode de vie qui peut associer le fait de ne pas fumer, d'avoir une diététique. Donc on ne peut pas attirer des éléments de causalité. On n'a pas de preuves, bien sûr, mais nous, en tant que médecins praticiens, on a quand même des éléments assez forts pour montrer que des sports d'endurance, des sports aérobie sont préférables que des sports explosifs comme le squash ou le badminton, par exemple.
Non, on n'a pas encore ces éléments-là, et c'est justement sur cet aspect que, petit à petit, les études sont en train d'être réalisées, et toutes ne vont pas forcément confirmer cette première inquiétude que vous leviez de façon tout à fait justifiée hein, initialement, mais on est peut-être en train de comprendre de façon différente cette distribution du risque.
Jean-François Toussaint, une dernière question. 7 ans, ça paraît énorme. Est-ce qu'on est capable de dire quelle part de ces 7 ans gagnés est réellement due à la pratique du sport ?
Alors voilà, c'est toute la question. Effectivement, on sait qu'il y a une part qui est liée à la prédisposition et certaines peuvent être associées tant dans la performance que dans la survie. Et d'autres vont être liées au comportement, au mode de vie sain, parce que beaucoup d'entre eux vont poursuivre une activité physique au-delà et qui ne sera plus aussi intense que celle qu'ils ont connue pendant leur carrière. Ce que l'on comprend, c'est que en population générale, le fait de ne pas être sédentaire et d'être actif, selon les recommandations que vous donnez, dernier est effectivement associé à 2 à 3 ans d'espérance de vie en plus. Mais ces 3 ou 4 ans supplémentaires, peut-être viennent-ils de cet effet génétique, de prédisposition, de capacité, d'entraînement, de contexte culturel très précoce pour ceux qui ont connu par leurs parents, par des proches dans la famille, un contexte sportif très jeune. Tout cela est associé pour apporter les deux. Mais il semblerait que de 3 ans à 4 ans, et donc cette association des 7, puisse être progressivement mieux comprise et mieux décortiquée.
Donc on fait attention quand même sur le lien de cause à effet, Dominique Dupagne.
Ah ben, clairement, dans la conclusion de l'article, d'ailleurs, les auteurs ne font pas le lien de cause à effet. Ils décrivent une observation. Maintenant, pour en tirer des conclusions, compte tenu des limites et des biais potentiels, c'est très difficile.
Oui.
Alors effectivement, de toute façon, en termes épidémiologiques, il ne s'agit toujours que d'une observation. Hein. Et en termes de causalité, après, les effets... mais c'est toute la question de la science actuellement sur la causalité et sur les associations de facteurs qui devient de plus en plus, qu'il s'agisse de la génétique ou d'autres données, de plus en plus complexes à comprendre.
Merci beaucoup Jean-François Toussaint. Merci Dominique Dupagne. À très bientôt.
On peut faire du sport écoutant le podcast de La Tête au Carré.
Et je remonte sur mon vélo.
Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des souris bèguent utilisées pour comprendre le bégaiement. Justement, c'est l'idée d'un groupe de chercheurs américains qui a eu l'idée donc de modifier le génome de ces petits rongeurs pour y ajouter un gène humain connu des personnes bègues. Ils n'y croyaient pas eux-mêmes, mais voici qu'ils ont obtenu des souris qui poussent des cris saccadés présentant les mêmes anomalies de débit que chez les humains. Il s'agit donc du premier modèle animal de recherche sur le bégaiement qui touche une personne sur 100. Une avancée qui ouvre la voie pour des recherches fondamentales mais également thérapeutiques. Les termites pour lutter contre la désertification. On connaît ces insectes pour leur capacité ravageuse à détruire les constructions humaines, mais ces insatiables insectes pourraient nous aider à comprendre l'avancée du désert. Des scientifiques de Princeton ont remarqué que les zones arides du Kenya infestées de termites se portaient mieux que les autres à climat identique. Après analyse des sols, ils montrent que ces insectes laissent derrière eux de grandes quantités de nutriments. Mieux irriguée, plus riche, la terre à termitière se transforme rapidement après en oasis pour des plantes en quête d'énergie vitale et pour les animaux. Et puis des flots continus de liquide rouge sang s'échappent mystérieusement de la glace à l'est de l'Antarctique depuis plusieurs années, sans que les chercheurs ne comprennent l'origine de ce phénomène unique. Eh bien, une équipe d'exploration américaine vient de procéder à des analyses sur place et lève aujourd'hui en partie le mystère. Les eaux de ces cascades de sang proviendraient d'un énorme lac souterrain situé à 400 mètres de profondeur, très concentré en fer. Une fois au contact avec l'air en surface, ce fer rouille et transforme les eaux en une coulée particulièrement rouge. Une photo de ce sanglant spectacle est à voir sur la page Facebook de l'émission.
Promise. en face que tout s'efface. Sommes-nous la noblesse? Sommes-nous les autres? Sommes-nous le souvenir? J'ai commandé, décommandé, vu mes yeux la prunelle, balancé les jumelles pour ne garder que le flou. Seulement laisser les passions immortelles, seulement laisser nos offenses. Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la romance? Sommes-nous la sécheresse?
Et la voix d'Alain Bachaume, bien sûr, dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Et les impostures scientifiques au cœur de notre dossier cet après-midi avec mes invités. Gilles Arpoutian, vous êtes journaliste scientifique, ancien directeur du Monde de l'Intelligence et du Monde des Sciences. Et donc, vous publiez La Petite Histoire des Grandes Impostures Scientifiques aux éditions du Chêne. Et puis à vos côtés, Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes mathématicien, philosophe, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Et membre du COMET, c'est le comité d'éthique du CNRS. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Est-ce que vous traquer les imposteurs au sein du COMETS, Jean-Gabriel Ganassia? Est-ce
non,
que c'est une de vos missions?
Notre mission n'est pas de traquer les imposteurs eux-mêmes, mais en revanche, de faire en sorte que le CNRS puisse connaître, dans la mesure du possible, les allégations de fraude, et puis essayer de les traiter. Et puis aussi, on réfléchit à la formation des étudiants à l'intégrité scientifique pour que, le plus tôt possible, ils aient une connaissance très très précise de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire.
Cela dit, vous avez une affaire récente qui est citée d'ailleurs dans votre livre, Gilles Arpoutian, c'est celle d'Olivier Voynet, qui a fait l'objet justement en 2015, donc l'année dernière simplement. Il a été relevé de ses fonctions, c'était une des stars de la biologie végétale et donc il a été suspendu de ses fonctions de directeur de recherche au CNRS. C'est un des cas les plus récents en France.
Absolument, il était nobélisable. Il travaillait sur ce qu'on appelle le gene silencing, c'est-à-dire l'inactivation de gènes en se basant sur les végétaux. Et c'est un grand spécialiste de la biologie végétale. Et en fait, on s'est rendu compte que dans certains de ses travaux, des visuels étaient truqués, ont été manipulés. Pour autant, ça reste indiscutablement un grand chercheur. Et d'ailleurs, la réponse qu'a donnée le CNRS en termes d'intégrité scientifique a été mesurée. C'est-à-dire qu'il a été suspendu.
Deux ans.
Mais on espère d'ailleurs qu'au-delà de 2017, il pourra être l'un des premiers chercheurs taxés d'imposture à reprendre sa carrière.
Ouais, Jean-Gabriel Ganassia.
Alors, bien sûr, toute la question, c'est est-ce que c'est une imposture? Alors, moi, je dirais plutôt que ce sont des fraudes. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose. Il s'agit dans les deux cas de tromper. Mais dans le cas de la fraude, c'est un règlement, c'est-à-dire ce qui est la démarche normale du scientifique qui a été un tout petit peu bousculé. Hein, et donc, certes, hein, il y a eu vraiment des mauvaises conduites et donc une atteinte aux bonnes pratiques scientifiques parce que il voulait publier, mais en même temps à long terme, la démarche qui était la sienne, scientifiquement, reste valide. Alors après, on peut se demander pourquoi, bien sûr. Et certainement, c'est l'envie d'avoir plus de financement qui l'a conduit à publier trop vite un certain nombre de choses avant d'avoir fait toutes les vérifications. Il a réutilisé des images qui n'étaient pas les bonnes. Et donc, ça l'a conduit effectivement à cela. Après, on pourrait se poser une autre question qui est très intéressante, qui est celle des réseaux sociaux, puisque c'est là où il a été dénoncé. Et donc, ce sont des nouvelles pratiques passionnantes aujourd'hui.
Oui, voilà. Imposture, donc, aménagement et transformation des données. Donc, le cas de ce Français, en tout cas le plus récent. Ce serait pas étonnant qu'il puisse revenir tranquillement d'ailleurs en 2017, parce que à la lumière de l'expérience internationale, on voit que certains chercheurs, qui pourtant ont payé très lourd leurs impostures, sont revenus célébrés comme des héros. Hein. C'est le cas du Coréen qui travaille sur le clonage d'ailleurs. Hein.
Absolument, il avait annoncé le clonage du premier être humain, c'est Wang Woo-suk, le héros du clonage. C'est un héros national en Corée, et tout était complètement faux et honteusement erroné. Et il a été destitué, entre guillemets, et finalement, il revient. Il revient sur le devant de la scène, c'est un héros en Corée, on lui a redonné un laboratoire, et actuellement, il se fait connaître, notamment pour chercher à refaire renaître un mammouth. Ouais. Et il a annoncé en décembre dernier avoir fait naître un chiot, en se basant uniquement sur des cellules.
Ouais. Donc chien. Finalement, c'est pas si grave d'être un imposteur scientifique, Jean-Gabriel Guénassia, puisqu'on redevient le héros qu'on a cru être avant. Alors,
pour ça, je crois qu'il faut distinguer différents types d'imposture. Je crois, dans le cas d'une petite fraude, c'est condamnable, mais bon, c'est quelque chose qui éventuellement peut s'amender. Dans le cas d'imposture de ce type-là, ou dans le cas d'imposture comme Sean, je me demande comment ces gens pouvaient être des scientifiques, parce que pour être capable de mentir à ce point, il faut avoir aucune confiance dans la science qui est la sienne, parce qu'il faut croire que l'on va pouvoir tromper tout le monde. Or, justement, ce qui fait le scientifique, c'est qu'il pense qu'il y a une vérité scientifique qui est observable par tous, et donc qu'il n'y a aucune possibilité d'échapper à la loi, hein, qui est celle de la nature, de la vérité. Hein. Et donc moi, je suis très étonné que des gens puissent aller jusqu'à ce point, hein, défendre des thèses absurdes. Hein. Donc, moi, je suis assez stupéfait. Voilà,
ce que disait justement Axel Kahn en 2006, deux ans, un an et demi après l'affaire Wang Woo-suk, donc le héros du clonage. C'était au micro de Nicolas Demorand sur France Culture.
Wang publie un article en 2004-2005, moins de six mois après, et grâce d'ailleurs aux scientifiques coréens eux-mêmes, on sait que ce Louis Pasteur coréen, parce qu'il avait ce type-là, une notoriété, un prestige extraordinaire, c'était un demi-dieu vivant en Corée, eh bien, il est déboulonné et on dit il a trahi, il a trompé. Donc, de ce point de vue-là, le système scientifique a joué. Ce que je pense, c'est que il a essayé énormément et plusieurs fois, il a cru y arriver. Et puis, in fine, ça marchait pas. Et la pression était telle, la pression psychologique, fantasmagorique, industrielle, ce chef véritablement de l'armée des biotechniciens coréens, et ben là, comme des gens du commun, comme des grands journalistes, comme ils ont flanché et il a fait n'importe quoi, il est devenu un fraudeur. Et ça, c'est très intéressant. Quels sont les différents éléments du ressort qui amènent quiconque s'avance dans ce champ imprudemment à devenir fou?
Voilà, belle analyse hein, d'Axel Kahn, mais effectivement, ce Coréen est redevenu le Louis Pasteur coréen, justement, pour reprendre les termes d'Axel Kahn. Hein.
Absolument, mais peut-être sera-t-il le premier à faire renaître les mammouths.
Eh bien, ça, on verra, c'est la suite de ses travaux, en tous les cas, apparemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce thème, Gilles Arpoutian, et puis de commencer au XVIIIe siècle, puisqu'on arrive aujourd'hui à notre époque.
Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que, en fait, la science, c'est la vérité. Et l'imposteur est un voyou. Alors, justement, moi, en tant qu'auteur, c'est précisément ce qui m'a intéressé. L'idée de l'aventure humaine, de grands génies, qui sont injustement méconnus. Injustement méconnus parce que souvent, leurs travaux s'insèrent dans la véritable histoire des sciences. Ouais. Et l'historien des sciences le met de côté de manière presque désobligeante, désagréable.
Alors c'est ça, parce qu'on sent une certaine affection que vous leur portez quand à ces anti-héros justement qui sont quand même...
Ils annoncent le futur et à un moment donné, dans leurs travaux, ils sont attirés par la lumière et ils tombent d'une certaine manière du côté obscur de la force. Ils décident que leur objectif de recherche est atteint alors qu'ils ne sont qu'en chemin. Mmh. Et je trouve le cas de ces grands chercheurs, souvent c'est des gens éminents qui gâchent leur carrière en quelques mois, je trouve cela passionnant et c'est souvent annonciateur encore une fois de l'avenir. Et leur découverte n'était certainement pas à bannir. Mmh. Et voilà. Et on s'est privé souvent de grands chercheurs qu'on aurait dû peut-être simplement recadrer, remettre dans le droit chemin. Et ils ont été injustement, je pense, bannis.
Jean-Gabriel Gagnassia, est-ce que vous portez le même regard bienveillant que Gilles Arpoutian sur ces imposteurs de la science?
Non, je ne porterai pas un regard aussi bienveillant. Parce que je crois que, d'abord, la science, ce n'est pas la certitude, c'est l'inverse. Hein. La science, c'est partir de l'hypothèse que le monde n'est pas connu. Sinon, il n'y aurait pas de science et qu'on peut faire progresser la connaissance. Et puis, en même temps, bien sûr, la tentation du chercheur, c'est tout d'un coup d'avoir une connaissance et puis d'assurer une espèce de certitude. Et je crois que ce qui fait le scientifique, c'est qu'il est entre les deux. Hein. Il pense qu'il y a des choses à connaître et en même temps, il veut progresser. Et eux, à un moment donné, ils vont trop loin. C'est-à-dire qu'ils ont une théorie, ils veulent plier le monde à leur propre théorie. Et ça, je crois que c'est inadmissible.
Et là, ils sortent du champ scientifique.
Voilà, ils sortent du champ scientifique. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut former les jeunes scientifiques très tôt à l'intégrité scientifique pour bien leur montrer que s'ils se mettent à tricher, bon, d'abord, c'est d'un point de vue éthique vis-à-vis des autres, c'est injuste parce qu'ils vont prendre des positions, ils vont avoir une réputation qui ne le sera pas due. Mais aussi, je crois que ce qui est plus grave encore pour un scientifique, c'est que ce ne seront plus des scientifiques. Mmh. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Le fraudeur, lorsqu'il fraude, il n'est plus scientifique. Et on le voit bien sûr très souvent sur les grands fraudeurs. Alors après,
sauf que les exemples du livre de Gilles Arpoutian montrent le contraire quand même. C'est qu'il reste aux yeux
de la société. Mandel triche d'un bout à l'autre et au final, il a tout de même raison.
Alors c'est pour ça que je distinguerais différentes choses. Je pense qu'il y a des vrais imposteurs, c'est-à-dire qui ont inventé complètement les résultats. Et puis, il y a des scientifiques qui vont peut-être un tout petit peu trop loin dans les conclusions qu'ils portent et qui ne vérifient peut-être pas tout.
Ou dans l'attribution.
La troisième chose, ce sont les plagiats qui ont inventé, disons, qui s'attribue plus ou moins explicitement les découvertes d'autres. Et donc, je crois qu'il y a ces trois choses qu'il faut bien distinguer pour bien comprendre le champ de l'imposture. Je pense que les imposteurs qui, eux, inventent, fabriquent des résultats, ça, c'est absolument hors du champ de la science. Ouais. Les autres, moi, je pourrais partager peut-être.
On verra un beau plagiat avec Louis Pasteur, justement, un des exemples étonnants de cet ouvrage. On y revient dans un instant avec les questions qui arrivent sur le site de l'émission.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa. I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. I'm counting on you to get me to the other side. Hey, 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 mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you. Young man.
Gregory Porter, dans cette tête au carré consacrée aux impostures scientifiques.
C'était ici, dans le gravier de l'ancien fleuve, que M. Charles Dawson a trouvé le crâne fossilisé de l'homme de Pildan, en 1912-1913. La question de son origine a toujours intéressé l'homme. Les matérialistes et les biologistes ont dit que l'homme s'est développé par évolution à partir des animaux. Et l'effort a surtout été orienté dans le sens de trouver les chaînons manquants entre les animaux et l'homme. Aujourd'hui, on parle moins de chaînons manquants. On parle plutôt d'ancêtres communs. Il fallait des preuves, bien sûr, pour soutenir et affermir la théorie de l'évolution. Et là où il n'y avait pas de preuves, un scientifique qui avait peut-être un certain sens de l'humour a inventé ses preuves. Ici, avec le crâne de Pildown, vous pouvez voir comment ils ont inventé la preuve d'une étape intermédiaire entre l'homme et les singes. Le crâne de Pildown était composé d'un crâne d'homme et d'une mâchoire de singe. Cela a servi pendant 35 ans de soi-disant étape intermédiaire, jusqu'à ce que des personnes travaillant au British Museum découvrent que c'était une mâchoire de singe fixée sur un crâne humain et que c'était une supercherie.
Voilà, supercherie dans la catégorie canular, qui reste un des plus célèbres au monde, Gilles Arpoutian, hein, cette affaire de chaînon manquant.
Incroyable, c'est typique de l'imposture en archéologie. Et bien que je ne le raconte pas dans cet ouvrage, en fait, cette histoire vraiment est symptomatique. On a la volonté, en fait, politique pratiquement, de prouver de façon irréfragable que l'homme descend du singe. Ouais. Et ça s'installe dans un courant quelque part qui est le modernisme. On cherche à faire table rase de la Bible et des références chrétiennes. Et ça arrange beaucoup les chercheurs à un moment donné de trouver ce chaînon manquant.
On veut donner un petit coup de pouce à l'évolution, mais exactement, d'une façon très grossière, Jean-Gabriel Ganassia, quand même. Et ça a duré très longtemps, hein, ce canular.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les motivations des imposteurs en sciences sont très différentes. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui le font pour leur carrière, pour apparaître. Et là, non, c'était vraiment une motivation idéologique pour essayer de faire fi, justement, à la religion et au créateur. Donc c'est intéressant.
Les courriers des auditeurs. Larry demande, est-ce que l'imposteur scientifique de bonne foi existe? Je précise scientifique, car il me semble qu'il existe des imposteurs.
Oui, il existe. C'est l'erreur obstinée. C'est l'autosuggestion. On a le cas avec René Blondelot.
On s'auto-hypnose.
Qui est persuadé d'avoir observé des rayons N. En fait, ça se passe au tout début du XXe siècle. On est juste après l'invention, la découverte des rayons X. Et René Blondelot, qui est un chercheur en fin de carrière, est persuadé de découvrir un nouveau type d'onde, les rayons N. Et il est le seul à les observer, lui et puis ses assistants. Et voilà, ça existe. On peut être un imposteur de bonne foi. C'est par vrai. Obstination dans son erreur. Il a généré finalement toute une littérature spécialisée en psychologie sur la notion d'autosuggestion.
C'est ça.
Il est devenu sujet lui-même d'expérience chez les psychologues. Il est devenu un cas d'école de la psychologie.
Voilà, donc il a servi aussi
à la science,
par ailleurs,
malgré lui.
C'est ça. Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'il y a des scientifiques qui justement... dans leur certitude, n'arrivent plus du tout à remettre en cause leurs hypothèses. Hein, et la mémoire de l'eau, par exemple. Benveniste était un grand scientifique et il s'est enferré dans cette hypothèse. Et il a continué pendant des années sans arriver à en sortir. Donc je pense que lui était de bonne foi.
Il était sincère,
il était très très sincère.
Ludovic demande, est-ce qu'il y a des sciences plus touchées que d'autres par le plagiat, la triche, le non-respect des règles éthiques et des pays plus touchés que d'autres? Alors il y a un classement dans le livre qui est assez amusant.
Il y a un classement assez...
sur les plus grands imposteurs, c'est-à-dire ceux qui ont accumulé justement les impostures. C'est que c'est un Japonais qui arrive en tête de ce classement avec 183 fraudes à son actif.
Il est vrai que la biologie et la médecine apportent plus d'opportunités pour le fraudeur.
Pourquoi justement ? Parce que c'est moins vérifiable facilement ?
Parce que c'est moins vérifiable, parce qu'on peut créer des images, parce qu'en fait ça ne s'appuie pas sur un travail conceptuel de formulation. Mm-hmm. On peut faire semblant d'avoir découvert certains effets qui n'existent pas. C'est beaucoup plus peut-être accessible à la fraude.
Dans votre domaine, les mathématiques, Jean-Gabriel Ganassia ?
Alors, disons, effectivement dans les domaines des sciences expérimentales, il y a beaucoup plus de fraude à l'expérimentation, et en particulier en biologie et médecine, parce que les conditions expérimentales sont extrêmement complexes à maîtriser. En physique, en général, les gens refont les expériences, et donc ça tient pas très longtemps. Par exemple, Sean, ça tient relativement peu de temps.
En biologie aussi, la reproductibilité de l'expérience.
Dites-nous qui est Sean, parce que ça fait plusieurs fois que vous le citez.
Oui, alors c'est très étonnant, parce que c'est quelqu'un qui était assez jeune, il est né en 70, et à partir de 2000, il fait sa thèse, je crois, en 97, et puis à partir de 2000, il se met à découvrir des propriétés semi-conductrices des matériaux organiques qui sont tout à fait étonnantes. Ça révolutionnerait totalement les microprocesseurs.
Il invente le transistor moléculaire.
Il invente le transistor moléculaire, et à partir de ça, il publie un nombre incroyable de papiers. On compte qu'il publie un papier tous les 8 jours. Ça devient une star, et puis on essaye de refaire ses expériences et on n'y parvient pas. Ouais. Et on se rend compte, mais c'est très rapide, au bout de 2 ans, que tout ça est totalement inventé. Et que,
il le reconnaît ou pas ?
Il l'a reconnu, il a dit qu'il a fait
malgré
des erreurs.
Lui, mais
vraiment malgré lui, parce que quand on a fait une enquête, on est allé dans son laboratoire et on lui a demandé les cahiers de laboratoire. Il a dit je suis désolé, ils étaient sur mon ordinateur, je les ai effacés.
C'est ça en plus.
Alors, maintenant, sur la question que vous posiez sur les mathématiques ou les sciences formelles, il n'y a pas d'erreur expérimentale, bien sûr. Pas de fraude à l'expérience. Il peut y avoir des erreurs dans les démonstrations, mais ce qui se produit, c'est le plagiat. Et il y a effectivement des articles qui sont repris, d'autres articles, des démonstrations qui sont reprises.
Justement, Ludovic nous dit de s'inspirer à voler, on passe par copier et plagier. Les frontières entre ces notions me semblent bien floues parfois. Qu'en pensez-vous ?
Je crois que le plagiat, c'est un vol. C'est-à-dire reprendre textuellement un texte, puisque c'est ça que ça veut dire le plagiat, c'est du vol. Ensuite, reprendre les idées, alors là, la frontière est beaucoup plus délicate, parce que effectivement, la science se construit quand même par l'échange d'idées, la construction d'une idée sur l'autre. Alors, ce qui est malhonnête, c'est de reprendre consciemment les idées d'une autre personne sans le citer.
Là, il y a plein d'exemples dans votre ouvrage.
Sont ces exemples qui sont vraiment passionnants.
Parlons
de Louis Pasteur. Gérard Poutian, quand même, parce que Pasteur, là, il les accumule.
Il les accumule.
Il n'est pas l'inventeur du lait pasteurisé, par exemple, ni du vaccin anti-charbonneux, ni du vaccin contre la rage.
Rien de tout ça. Pasteur est un grand précurseur, c'est un génie des sciences, c'est le premier à travailler vraiment avec un microscope. Et en fait, il va, pour chaque discipline qu'il va aborder, pour chaque champ de recherche, il va se documenter, il va faire la synthèse de l'ensemble des connaissances de son époque.
Et il va s'inspirer de ses collaborateurs aussi, quand même, beaucoup.
S'inspirer de ses collaborateurs, des découvertes qui précèdent. Et voilà, ce qui compte pour lui, c'est de faire avancer la discipline, la science. Et souvent, là où ça devient immoral, c'est qu'il dépose des brevets. C'est-à-dire que pour la pasteurisation, il dépose un brevet. Oui. Pour la fermentation aussi, pour les vaccins, il va déposer des brevets. Ce qui constituera d'ailleurs un premier financement pour la Fondation Pasteur. Mais il n'a jamais inventé ni... Ouais.
Est-ce que pour autant, il faut destituer Pasteur ou pas ? Ça reste un génie quand même.
Ça reste un génie. Je ne pense pas qu'il faille le destituer au sens dur du terme, comme on a pu le faire avec le capitaine Dreyfus en son temps. Non, il ne s'agit pas de destituer, de le faire tomber de sa de son piédestal. Pour autant, de rectifier un petit peu quand même sa personnalité.
Ouais, ça reste un personnage essentiel à l'histoire, malgré ses malhonnêtetés, parce qu'il faut dire un petit peu les
choses
comme
elles sont. Sans lui, on perd du temps. Il a fait gagner du temps à la biologie.
Oui, moi je crois d'abord qu'il y a différentes fonctions dans la science, et donc il a été capable de faire la synthèse, il a été capable de commercialiser un certain nombre de choses, mais je suis d'accord que c'est le rôle des historiens, c'est-à-dire de faire l'étude et de restituer des années après ce qui a été la vraie démarche des scientifiques.
Quelques victimes de Pasteur oubliées de l'histoire des sciences, Antoine Béchamp, Henri Toussaint, Émile Roux, Alfred de Vergnette et Pierre-Victor Galtier. Voilà, vous faites cette liste justement pour qu'on ne les oublie pas. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion sur les imposteurs de la science, avec les messages bien sûr.
La tête en bas, je passe l'hiver au même endroit. Là où tu vivais hier, caché sous les toits, quelques mois.
Gilles Lucky, à l'envers, à l'instant, sur France Inter.
La tête carrée. Sur France Inter.
La petite histoire des grandes impostures scientifiques aux éditions du Chêne. Gilles Arpoutian, vous êtes l'auteur de ce livre. Et puis à nos côtés, Jean-Gabriel Ganassia, pour nous parler un peu d'éthique. Vous êtes membre du COMETS, hein, donc le comité d'éthique du CNRS. Ludovic nous envoie ce message. Il nous dit ceci: les scientifiques s'inspirent les uns des autres. C'est la raison d'être des colloques, des conférences, des publications. Mais plagier et voler revient à l'imposture, à la triche. Alors pourquoi pas une science ouverte, dit Ludovic, à la open source, où chacun pourrait s'inspirer ouvertement des autres, à condition de respecter l'auteur original. Est-ce que c'est une des pistes de recherche intéressantes justement pour lutter un peu contre la fraude ou pas ?
Bien sûr, l'idée que on doive associer aux publications les données qui ont permis de parvenir aux conclusions qui sont celles décrites dans la publication, permettre aussi à d'autres d'utiliser les mêmes données pour formuler de nouvelles hypothèses scientifiques. C'est bien sûr un peu le nouveau paysage scientifique qui s'ouvre aujourd'hui. Il n'empêche néanmoins que on peut toujours frauder, même dans ce paysage, c'est-à-dire reprendre des conclusions d'autres sans les mentionner.
Sauf que ça a l'air d'être plus compliqué quand même avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Gilles Arpoutian, parce qu'on se fait repérer plus vite quand même.
Absolument. Ont émergé des réseaux sociaux de chercheurs qui sont volontaires, bénévoles, et qui étudient les différentes publications. Ça a permis de révéler des impostures fantastiques très rapidement. Mm-hmm. Et en quelques semaines...
Il y a des cas d'école intéressants.
Notamment Obokata, cette jeune japonaise spécialiste des cellules souches, qui trouve un moyen fantastique de créer en toute simplicité, de transformer n'importe quelle cellule en cellule souche. Ouais. Et en fait, elle avait totalement fraudé. Et
bah, je me souviens, parce qu'on en a tous parlé, évidemment. Après, ouais. Ça fait la une de l'ensemble des médias scientifiques.
Elle a inventé une méthode, qui est la méthode STAP, qui en fait était tout à fait bidon.
Et on disait, voilà, futur prix Nobel aussi, hein, évidemment.
En 15 jours, elle s'est retrouvée star début janvier. Et 15 jours plus tard, à la fin du mois, elle était complètement déchue. Et aujourd'hui, elle a été particulièrement mise sur le banc de la recherche japonaise. On lui a fait faire des séances publiques d'excuses. Oui. On lui a retiré tous ses diplômes.
Et au Japon, c'est dur, hein, parce que quand on perd la face, c'est difficile.
Elle est, d'ailleurs, transmis à la télévision.
Il y a un de ses directeurs de thèse qui s'est suicidé, d'ailleurs, je crois, suite à l'affaire. Hein.
Son directeur de thèse s'est suicidé par déshonneur.
Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, je crois que les réseaux sociaux, hein, des sites comme Bob Peer par exemple, jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui parce qu'ils changent le débat scientifique. Jusqu'à présent, on avait des résultats, on les soumettait à une revue, ils étaient évalués, ensuite ils étaient publiés, et puis en général, il se passait pas grand-chose après. Aujourd'hui, il y a l'idée qu'il y ait une vie après la publication, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens sont capables de discuter, d'échanger dans le monde entier pour éventuellement soit se poser des questions naturelle sur la publication, hein. Donc ça c'est une discussion scientifique, mais quelquefois bien sûr, pour dénoncer un certain nombre d'irrégularités. C'est ce qui s'est fait avec donc Bocata, hein, qu'on a cité là, avec Voynet ou avec d'autres, hein, et je crois que c'est tout à fait essentiel pour mieux comprendre, hein, et puis pour dévoiler bien sûr ces cas de fraude, hein, qui sont absolument inadmissibles.
Gilbert nous dit, enfin cette évidence, Einstein, dont je suis par ailleurs un admirateur, a incontestablement pompé Henri Poincaré, sans le citer dans son papier de 1905, prenez les deux premières pages du chapitre 6 de La science et l'hypothèse, publié en 1903 chez Flammarion, et vous avez 90% des idées de base de la théorie de la relativité restreinte. Dommage que le mythe Einstein n'ait pas été rectifié depuis auprès des étudiants de physique et des autres.
Alors, c'est Einstein plagie les idées. Il ne cite pas ses sources. Il révolutionne la physique avec quatre publications en 1905, en l'espace de 3 mois.
Ouais. Et c'est l'année miraculeuse. Hein.
C'est une année miraculeuse. Pour autant, la suite de sa carrière montre bien que c'est un grand génie. On ne peut pas réduire Einstein à ce plagiat initial de sa carrière. Il n'empêche que il a donné un nouvel élan aux travaux de Poincaré, aux travaux de Lorentz, et que c'est tout de même le grand Einstein que l'on connaît. Maintenant, l'histoire doit un petit peu rectifier le portrait de ce personnage.
Ouais. Est-ce que les médias sont souvent complices aussi des impostures au fond, puisqu'on se fait le relais,
bien sûr,
évidemment,
bien
et
sûr.
On fait monter la mayonnaise quand même.
Les médias veulent des grandes découvertes, des révélations, des choses extraordinaires, et donc portent une starisation du chercheur aujourd'hui. Ouais. Et c'est légitime d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment sur le devant de l'actualité, ils changent le monde de manière comme jamais. On n'a jamais eu de telles révolutions scientifiques et technologiques dans l'histoire de l'humanité. Et donc on se retrouve aussi parfois avec des jeunes chercheurs qui sont tentés de se créer une notoriété et d'inventer ce qui n'existe pas encore.
Et les peines peuvent être très lourdes. Vous citez le biologiste Dong Pyong-han qui a été condamné à 57 mois de prison, 7 millions de dollars d'amende, justement.
C'est en 2013, oui. Ouais, donc... C'est le premier cas d'emprisonnement pour un chercheur ayant fraudé. Et alors, c'est assez terrible. Il a fait croire qu'il avait trouvé un vaccin contre le sida.
Ouais.
Et donc, il a généré des centaines de millions de dollars de fonds pour la recherche autour de lui, autour de son laboratoire. Et en fait, c'était tout à fait bidon. Et il s'est retrouvé avec une peine d'emprisonnement lourde. Mmh. Et voilà.
Publiez, Jean-Gabriel Ganassi, avec Le Comète, c'est un guide pour promouvoir une recherche intègre et responsable. Donc il y a des textes maintenant là-dessus. Hein.
Tout à fait, c'est pour aider les directeurs de laboratoire à se comporter si il y a des allégations de fraude, hein, ou de mauvaise conduite à l'intérieur du laboratoire, par exemple, hein, de plagiat, etc. Hein. Et nous allons essayer de rédiger une nouvelle version de ce guide, non seulement pour le CNRS, mais aussi pour les universités et peut-être d'ailleurs pour les autres organismes de recherche, parce que ça nous semble vraiment essentiel aujourd'hui hein, de prévenir toutes les allégations de fraude.
contrôle le plus tôt possible. Donc il y a la formation, il y a le guide, hein, et à terme, hein, bien sûr, l'idée c'est d'expliquer, bien sûr, hein, les raisons, hein, pour lesquelles ça pose problème. Et on voit que ces questions sont prises au sérieux, non seulement au CNRS, non seulement à l'université, mais aussi au plan européen. Hein, il y a, lorsqu'on rédige un projet européen, on vous demande de plus en plus, hein, à la fois d'avoir une formation à l'éthique de la recherche, et puis en même temps, hein, de donner des gages, hein, bien sûr, dans la rédaction du projet.
Gilard Poutian.
La grande difficulté de l'intégrité scientifique, c'est que la recherche est une communauté mondiale, donc il ne dépend pas du CNRS ou de la communauté européenne. C'est une problématique mondialisée. Et comment faire édicter des réglementations qui obligent l'ensemble des chercheurs du monde? Et c'est là la principale difficulté de l'encadrement des travaux de chercheurs qui travaillent dans des pays divers et variés, souvent qui ne sont pas originaires du pays dans lequel se trouve leur laboratoire, et des publications qui se passent encore dans d'autres pays. Mmh. Tout cela est totalement mondialisé.
C'est une des limites, justement, à la chasse à la fraude?
Je crois que non, parce que quand même la rigueur scientifique, elle est universelle, hein, et je pense que sur les questions d'éthique, oui, parce que les éthiques de l'expérimentation ne sont peut-être pas les mêmes dans tous les pays du monde. En revanche, que la démarche soit rigoureuse, ça, il me semble que c'est valable partout.
Hein, je pense qu'il y a pas de... comment dire qu'un chercheur a enfreint cette limite? Comment il n'existe pas de définition légale du plagiat, de la fraude. Et il me semble qu'à terme, devra émerger une sorte de droit international de l'intégrité scientifique.
Sur la fraude, je pense qu'il y a des choses assez claires. Hein, c'est-à-dire que les données, si elles sont fabriquées, si elles sont modifiées, ça c'est quelque chose de coupable. Le plagiat, c'est autre chose.
En attendant, on peut se régaler en découvrant la petite histoire des grandes impostures scientifiques aux éditions du Chêne. Chez les archéologues en particulier, il y a des choses tout à fait amusantes. Ils se donnent beaucoup de mal, hein, les archéologues, justement, pour frauder. Mais ils ont beaucoup d'imagination et ça les rend extrêmement sympathiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Gabriel Ganassia.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Science et Médecine du Monde.
Allez, un peu de science improbable en ce mardi. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et vous nous parlez aujourd'hui d'extraterrestres, quelle idée?
Oui Mathieu, mais d'abord je dois évoquer un autre envahisseur, Christophe Colomb. Vous vous souvenez qu'après la découverte de l'Amérique, l'irruption des Européens dans le Nouveau Monde n'a pas vraiment bénéficié aux indigènes. Eh bien, certains chercheurs redoutent que la situation ne se reproduise, mais cette fois au détriment de l'humanité tout entière. Notre Terre pourrait bien être un Eldorado pour des extraterrestres qui n'hésiteraient pas à venir jouer les conquistadors et à écraser nos faces d'Indiens sous leurs grosses pattes gluantes. D'où l'idée de ne pas hurler notre présence sur les toits cosmiques, de nous faire discret. L'ennui, c'est que si nous avons été capables de détecter plus de 2000 planètes extrasolaires, il y a de bonnes chances que E.T. soit en mesure d'en faire autant avec notre petite boule bleue. Et dans une étude publiée le 30 mars, deux astronomes américains se disent qu'il est probable que les extraterrestres utilisent pour cela une méthode qui nous a le plus réussi au cours des dernières années, la méthode du transit.
Alors c'est quoi exactement cette méthode de transit ?
Le principe de cette méthode consiste à observer la lumière d'une étoile en espérant que nous soyons sur le même plan que les éventuelles planètes qui tournent autour. Au bout d'un moment, elles finissent par passer devant le disque de leur soleil, c'est ça qu'on appelle un transit en astronomie, ce qui provoque une baisse de luminosité de l'étoile qui est facilement détectable. Il est ensuite assez aisé de calculer la taille des exoplanètes en question, de déterminer si elles se trouvent dans une zone habitable. On peut aussi chercher dans leur atmosphère des molécules qui trahissent la présence de la vie. Alors, si nous ne voulons pas un de ces beaux matins voir débarquer des colonnes de panzers spatiaux, tout droit issus de la planète Xantar. Peut-être faudrait-il songer non pas à empêcher la Terre de passer devant le Soleil, ça risque d'être un peu difficile, mais à lui créer une sorte de cape d'invisibilité, explique le plus sérieusement du monde cette étude. Ces auteurs ont donc calculé combien d'énergie il faudrait dépenser pour compenser la baisse de luminosité produite par notre transit annuel en dirigeant à ce moment-là des lasers vers l'espace de manière à faire croire aux astronomes antariens que autour du Soleil, il n'y a rien.
Et qu'est-ce que ça donne vraiment, Pierre ?
Résultat de l'estimation, pour une cape d'invisibilité parfaite, il faut compter un réseau de lasers d'une puissance totale de 250 MW allumé 10 heures par an, soit un coût somme toute raisonnable. Autre possibilité plus économique, 160 160 kilowatts, masquer uniquement les biosignatures de notre atmosphère pour faire croire que la Terre est privée de vie. Alors tout ça est très joli, mais c'est oublier que les Antariens ont depuis longtemps détecté nos émissions radio, et notamment France Inter, et qu'ils sont déjà en route. En fait, ils arrivent demain.
Vous nous faites peur, Pierre Barthélémy. On retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui, et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
Et également à la une du cahier Sciences et Médecine, la grippe aviaire sous haute surveillance pour enrayer l'épizootie qui sévit dans les élevages du sud-ouest de la France. Vous apprendrez que de nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur lundi dernier. Et puis également un article au sujet d'une molécule pour apaiser les souvenirs traumatiques.